pas bailler, pas mais bailler.
Ah, emprunter.
Emprunter ou donner, ouais, donner, c'est ça. Le mot bouchure. Comme dans la phrase, wow, c'est une bouchure.
Ben, c'est une clôture, on s'en
oui! Hucher.
Crier.
Crier.
Oui! Noucle.
Noucle.
T'es-tu sûr que t'as pris des mots acadiens?
100%.
Un nœud?
Un nœud, oui! Ah, c'est parfait, c'est bon!
Pascal Paradou.
Le français est-il une langue étrangère quand il est parlé par les Acadiens? À mon oreille parisienne et en écoutant ce rapide florilège diffusé sur la chaîne TFO, il n'y a pas de doute, oui. Mais si je franchis l'Atlantique avec cette question, je sens que ça va chauffer. On va voir ça avec Clint Bruce. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la chaire de recherche en études acadiennes et transnationales à l'Université Sainte-Anne, directeur de l'Observatoire Nord-Sud, et vous êtes basé à Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire au Canada. L'acadien est-il une forme de français? Vous allez me dire que oui, même si je n'y comprends mot.
Je vais absolument vous dire que oui. Je vais aussi vous dire que quand vous allez arriver dans notre région, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, que vous allez devoir vous y faire l'oreille, et si vous visitez la Louisiane aussi, que vous allez peut-être devoir vous y faire l'oreille également. Mais cela se fait, cette oreille-là.
Cela veut dire qu'il y a plusieurs Acadiens dans l'Acadie?
Tout à fait. Ici, dans notre région, on est environ 8000 personnes. Quand je passe dans la région à côté, qu'on appelle la région de Parambas, l'accent change, tout à fait. Pas forcément le vocabulaire, mais certainement ce qu'on entend.
Mais donc, c'est une question d'oreille seulement, c'est une question de sonorité, quand même.
Non, il faut vraiment le prendre au sens métaphorique. Il y a un lexique à apprendre, il y a des tournures, il y a même des désinences verbales, des formes syntaxiques. Non, il faut vraiment s'y faire l'oreille et un peu le glossaire aussi.
Mais alors, elle vient d'où, cette forme de français?
Le français acadien, à la base, dérive des parlers de l'ouest de la France, implantés, transplantés en Amérique dès le début, milieu du XVIIe siècle, et puis ayant connu son évolution entière d'Amérique, dans l'ouest du Canada et dans d'autres régions où la population acadienne a été implantée. Donc il s'agit d'une des trois variétés souches du français en Amérique du Nord. Il y a le Laurentien, qu'on peut aussi dire le français québécois, le français acadien dans l'ouest, et aussi le français louisianais, et étant originaire de Louisiane, ce français-là m'est particulièrement cher.
Mais donc c'est du vieux français, l'acadien, quelqu'un qui vivrait au XVIIe siècle et reviendrait par magie aujourd'hui en Acadie au XXIe siècle, vous comprendrez mieux que moi?
Vous savez, je résiste un peu à cette idée que c'est du vieux français parce que le français que vous et moi, on est en train de parler, il y a des vieux mots aussi. Le mot « manger », c'est un vieux mot. C'est tout simplement un mot qu'on a continué d'utiliser. Alors, c'est pas du vieux français pour les Acadiens. Cela étant dit, on reconnaît que oui, pour certains termes, pour certaines formes, absolument, quelqu'un qui voyagerait dans le temps depuis le XVIIe siècle pourrait mieux comprendre certaines choses qu'on dit ici par rapport à ce que cette personne-là entendrait en France métropolitaine. Oui, mais il y a eu des évolutions aussi. Donc, le français hexagonal a évolué, le français acadien aussi. Donc, oui et non.
L'acadien, aujourd'hui, est parlé au quotidien?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Si je sors de mon bureau ici sur le campus de l'université, c'est certainement ce que je vais entendre en parlant mon français professoral à moi et on se comprendra parfaitement.
Mais le parler professoral, c'est quoi? C'est celui que vous utilisez avec moi ou c'est celui que vous utilisez avec vos étudiants acadiens?
C'est certainement celui que j'utilise avec vous et dans mon quotidien professionnel. Et vous savez, la langue, il faut que ça se négocie et que ça se navigue dans des situations au quotidien. Donc, quand je suis dans un restaurant, un commerce de la région ou dans la province voisine du Nouveau-Brunswick. C'est sûr que j'adapte un peu mon langage à mon interlocutrice ou à mon interlocuteur en fonction de mes connaissances du milieu. Donc moi, je suis originaire de Louisiane, professeur ayant étudié dans une université aux États-Unis, un peu en France aussi, mais ayant vécu ici en Acadie, et on trouve un peu comme des Français ou des Africains qui vont aller vivre au Québec, ben on trouve... On négocie ça, hein. C'est là, c'est négocié. Ça veut pas dire qu'on renonce à sa façon de parler, mais c'est ça la francophonie, hein. C'est cette polyphonie qu'on habite ensemble.
Alors, nous parlons de l'acadien aujourd'hui avec vous, Clint Bruce, car vient d'être réédité un ouvrage de référence publié en 1932 qui s'appelle Les Acadiens Louisianais et leur parler. Est-ce que c'est la Bible de tout Acadien ou au moins son dictionnaire?
La question est excellente parce que c'est celle que va se poser toute personne qui va tomber sur ce livre en librairie. Et je vais d'abord dire que non, ce n'est pas la Bible qu'il faut avoir. C'est un document d'une certaine et indéniable valeur historique que je conseillerais à toute personne qui s'intéresse à l'histoire de la langue française et aux variétés du français parlé en Amérique du Nord. Ce n'est pas la Bible. C'est un document qu'il faut approcher peut-être avec des pincettes et un peu de contexte, ça peut aider. Alors là, on peut en donner de ce contexte-là aujourd'hui.
Quel contexte, par exemple, est nécessaire?
Alors, c'est un ouvrage, comme vous l'avez dit, réédité, donc à partir d'un livre qui a été publié en 1932 à l'Institut français de Washington aux États-Unis et à la librairie Drault à Paris, sous l'égide de la Société de publication romane et française, grâce aux efforts d'un professeur de français à l'Université Tulane à la Nouvelle-Orléans. Il s'appelait Jay Ditchie et c'est le nom qu'on va voir sur la couverture. Mais ce n'est pas lui qui a créé ce document. C'est un manuscrit un peu mystérieux, en fait, vraiment aux origines un peu énigmatiques, qui était composé de notes manuscrites sur une soixantaine d'années, entre le milieu du 19e siècle et le tout début, le tournant du 20e siècle, par un Acadien de la Louisiane qui voulait documenter aussi bien le parler de sa région natale que les coutumes, les traditions et les mœurs. Donc, en fait, il y a un essai à la fin qui essaie de décrire un mode de vie qui disparaissait à la fin du 19e siècle.
Clint Bruce, nous allons parcourir ensemble ce livre de J.K. Ditchie après la nouveauté du jour, Sable, nouveau titre du groupe bruxellois L'Or du commun, ici en duo avec Loose and the Yakuza.
Que j'ouvre l'œil, je le sais. Ce n'est même plus la peine que j'essaie de revoir le film, les formes fondent. Je laisse s'en aller le tout. J'ai beau faire l'effort, je le sais. Il suffit que j'ai posé le pied sur le sol de la chambre pour que la moindre image ne devienne floue. Une histoire d'amour sur la mer, un empire dont je devenais le maître. Mon imaginaire a mis moins d'une heure pour arriver à semer le trou. Chaque nuit le même cinéma, une seule séance seulement. Juste la salle vide et moi. Mes rêves sont comme le sable entre mes doigts. Il ne m'en reste plus que quelques fragments désormais. Un puzzle qui s'éparpille sous les armoires. Personne ne sait ce qui se passait vraiment quand je dormais. J'aimerais me souvenir de toutes les choses douces que je vois quand je ferme les yeux. Souvenir de toutes les choses douces que je vois quand je ferme les yeux. Que je vois quand je ferme les yeux.
Le reste d'une nuit dans la tête, le matin les premiers rayons m'atteignent, me caressent, la joue doucement me ramène loin des sons. Tous les soirs je reprends la mer, les vagues arrivent et le temps s'arrête. Si je me souvenais de ce monde parallèle, se lever ne vaudrait pas la peine. Oh. On vit les choses au comprend après, mais les matins sont toujours pareils. Tout se dérobe sans que je me rappelle. Oh. Je sens le manque quand le rêve s'achève, je ferai tout pour que j'en retienne la leçon.
J'imagine plein de choses qui bouillonnent en moi une dose de fantasmes avec plein d'autres choses.
J'imagine être chaud quand la nuit s'empare de nous. Que mon autre moi prend de ce. Je veux pas qu'on me réveille, c'est une évidence, évidence.
Mes rêves sont comme le sable entre mes doigts.
Lors du commun en duo avec Loose and the Yakuza aujourd'hui dans De Vive Voix, avec aussi un livre et un invité. Le livre, c'est Les Acadiens Louisianais et leur parler. Et l'invité, le directeur de la chaire de recherche en études acadiennes et transnationales à l'Université Sainte-Anne, Clint Bruce. Alors, à propos de ce livre, Clint Bruce, vous nous avez rappelé qu'il avait été écrit à un moment où il y avait une menace sur le parler acadien. Est-ce qu'il a atteint son objectif, éviter sa disparition?
C'est très intéressant cette question-là parce que quand on parle de la disparition du parler acadien en Louisiane par rapport à cet ouvrage, l'auteur anonyme de ce manuscrit ne craignait pas vraiment l'assimilation par l'anglais. C'était pas vraiment de ça qu'il parlait. À la fin du 19e siècle, les zones francophones étaient très francophones. Bon, on voyait très bien que le français avait perdu son statut de langue officielle et que plus tard, éventuellement, bon, on passerait à l'anglais. Mais en fait, il s'agissait plutôt du vieux parler de la population de souche acadienne qui était en train de s'amalgamer avec les autres variétés du français en Louisiane, vraiment le français louisianais plus globalement, où existe aussi la langue créole, une langue créole encore parlée aujourd'hui, le français utilisé dans les écoles, et donc l'auteur anonyme encore, voyez que les mots, les tournures des vieilles générations étaient en train de se perdre dans cette francophonie louisianaise qui allait bientôt être à son tour menacée par l'anglais. Mais il ne s'agissait pas vraiment de la menace de l'anglais à ce moment-là.
Mais est-ce que les règles expliquées dans ce livre, est-ce que les mots qui sont dans le glossaire sont des règles aujourd'hui effectives? Est-ce que ce sont des mots utilisés où il y a déjà une distance historique entre ce parler-là et celui que l'on a aujourd'hui?
Alors, il y a des mots que j'utilise moi dans mon quotidien quand je parle avec des Louisianais, et un de ces mots-là qu'on trouvera absolument dans le glossaire, que j'aimerais exporter partout dans la francophonie, c'est notre mot louisianais pour le pop-corn ou le maïs éclaté, c'est le tac-tac. C'est une onomatopée. J'ai appris ça jeune. Je trouve ça génial. Bon, je vais me faire un bol de tac-tac. Moi, mon épouse ne vient pas de la Louisiane, mais elle et moi, on s'est approprié ce mot-là. Je l'utilise dans mon quotidien.
J'essaierai de le faire.
Ben, s'il vous plaît, aidez-nous à exporter ce terme génial. Un autre mot que j'utilise plutôt avec des Louisianais, c'est l'adverbe joliment pour dire très ou beaucoup. Ah, il fait très chaud aujourd'hui, ça fait joliment chaud aujourd'hui. Je parle comme ça quand je suis en Louisiane. Ça, on va le trouver dans le glossaire. Absolument. Et il y a d'autres termes qui ont disparu. Je dirais que c'est probablement moitié-moitié, je dirais. Et il y en a aussi beaucoup qui relèvent de domaines lexicaux qui ne sont plus tellement courants aujourd'hui. Des termes agricoles qui sont reliés à la pêche. Bon, quand on exerce ces activités-là, c'est sûr qu'on s'en sert, mais pas forcément dans les conversations de tous les jours. Des termes de certains métiers, la culture du coton, du sucre. Oui, ces mots existent, mais ce sont pas forcément des termes de conversation courants.
Alors, je ne vais pas faire la liste de tous les mots parce qu'il y en a beaucoup et je les ai pas tous lus d'ailleurs. Mais si j'en prends un, par exemple le mot bol. J'ai vu que bol chez les Acadiens, ça veut dire cuvette de toilette. Est-ce que vous dites aux enfants fais pipi dans le bol?
Oui, cela peut s'entendre. Oui.
Ah oui, donc ça oui. C'est encore effectif.
Dans ce même domaine, un mot que je n'utilise pas, mais qui est dans le glossaire que j'aimerais réintroduire, c'est le mot cacatoire, hein, pour le lieu d'aisance. Ça, je trouve ça plutôt génial aussi.
Et est-ce que vous dites un souris ou une souris?
Moi, je dis une souris, mais je conçois qu'on puisse dire un souris comme en Louisiane, le mot serpent est resté féminin. Et donc, en fait, je dis plutôt une serpent avec des Louisianais, un serpent en salle de classe et avec des locuteurs d'ailleurs. Donc, je le conçois, même si je n'ai pas adopté cela.
Ce français s'écrit aussi, ce français acadien? Parce que j'imagine que pour les correcteurs d'orthographe, ça ne doit pas être simple.
Oui, absolument. Le français vernaculaire peut s'écrire sans difficulté. Au 19e siècle déjà, il y avait un certain intérêt. Donc, dans les vieux journaux de la Louisiane, étaient souvent bilingues. Et il y avait une presse francophone et on pouvait parfois trouver des textes dans la langue vernaculaire des gens qui écrivaient des lettres à la rédaction, souvent avec un trait d'humour, hein. c'était de la couleur locale, comme on disait. Et bon, il y avait certains mots dont on n'avait pas forcément fixé la forme, mais cela se lisait, on pouvait s'appuyer sur ses connaissances de l'orthographe. Donc un mot dont on n'a pas fixé la forme et qui s'utilise très couramment et qu'on va trouver dans le livre de Jay Ditchie, c'est notre mot pour « alligator ». Vous savez, c'est un animal emblématique de la Louisiane et pourtant on ne dit pas alligator, on dit un caïman ou un cocodri. Et ça, c'est un mot qu'on trouve en vieux français, le cocodri, ça vient du latin. Mais ça, parfois, on l'écrit IL à la fin, parfois IE, et ça, on l'a pas vraiment codifié rigidement, je dirais.
Alors, il y a la question des mots, il y a la question aussi de la conjugaison des verbes qui ne sont pas du tout pareils. Si je prends le verbe être, vous vous dites je sens.
Cela peut se dire et cela peut s'entendre, oui. C'est ce qu'on appelle le jeu collectif. Ça existe dans plusieurs parlées de France, hein, en France métropolitaine. Et donc ça, c'est une forme archaïque ou enfin une pratique qui remonte au XVIe siècle et même avant, oui, certainement.
Clint Bruce, je vais vous faire écouter l'extrait d'un reportage de France 24. C'est le témoignage d'un vieux monsieur qui s'appelle Ray Crochet, qui parle de son bilinguisme français-anglais, mais je vais avoir besoin de vos lumières.
Si tu es marié, tu n'as pas en anglais. Tu es parti à l'école. Et tu as essayé de comprendre quoi ce que la maîtresse une monde. Et tu t'achines ça le mieux que tu peux pour répondre. Ça faisait extra du mal à moi, pour sûr, parce que suffit que tu ne parlais pas bien anglais. Eux, s'y croyaient que tu étais pas trop intelligent. Il n'avait pas l'esprit pour connaître que l'intelligence n'a rien du tout à faire avec comment est-ce que tu parles.
Clint Bruce, c'est un témoignage assez émouvant, mais est-ce que vous avez tout compris? Moi, il m'a manqué 2-3 mots.
Oh, je dirais que oui. Ce qui me frappe surtout, c'est l'intelligence du discours de ce monsieur, hein, qui dit que bon, on avait un problème linguistique dans les écoles de Louisiane. Bon, là, vous l'avez bien saisi comme la plupart des auditeurs, je pense. Mais que ça, ce n'est pas un problème d'intelligence, hein. Donc, on n'avait pas prévu la solution pour l'intégration scolaire des enfants. Et comme dit le monsieur, ça a marqué plusieurs générations d'Acadiens et aussi d'Afro-créoles, hein, des créoles de couleur, tout aussi bien.
C'est le cas aujourd'hui encore, cette instabilité linguistique chez les Acadiens qui sont à l'école?
Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu ironique. Donc, le français a été réprimé pendant une bonne partie du XXe siècle jusqu'aux années 60. Et on a essayé de le chasser, hein, vraiment d'angliciser la population. Et cette population, comme je voulais dire, très diversifiée. Il y a des autochtones, des Amérindiens francophones, encore très francophones, des créoles noirs, des gens de souche acadienne et de souche française. Et donc, là, évidemment, la langue a perdu du terrain, beaucoup de terrain, et, ironiquement, a gagné en prestige. Donc, il y a une mise en valeur de la langue qui n'existait pas jusqu'aux années 60, alors qu'on la parle moins, la langue française.
Donc, c'est chic de parler acadien?
Tout à fait. Je dirais que c'est tout à fait chic. Il y a une scène musicale très vivante et vibrante en Louisiane qui s'appuie sur le répertoire semi-traditionnel de la chanson cajun et créole. Il y a des nouvelles compositions et oui, je dirais que c'est devenu chic, oui.
Parce que en lisant ce glossaire, je me suis dit, bon, c'est vraiment la possibilité de nombreux quiproquos entre vous et moi, parce qu'il y a des mots qui n'ont pas tout à fait le même sens. Par exemple, le mot café qui désigne chez vous un bar où l'on peut boire tout sauf du café. Mais je me suis dit que je parlais aussi parfois acadien. Tout partout, par exemple, c'est une formule que je peux utiliser. Ou alors le verbe « toquer » pour battre, c'est un mot pour moi très français, qui est dans mon quotidien.
Et je dirais qu'il y a chez les Louisianais, il y a parfois une perception que certains mots, haut en couleur ou chargés d'une certaine expressivité, bah, ça doit être louisianais. Alors qu'effectivement, on peut rencontrer des francophones d'un peu partout et se rendre compte du fait qu'en fait, il y a plus en commun qu'on ne le pense, mais le problème, et vous avez mis le doigt dessus, c'est qu'on ne sait pas toujours quels sont ces éléments communs et quels sont les éléments de divergence. Et c'est la même chose par rapport, je dirais, au français et au créole des Caraïbes. On a beaucoup d'expressions en Louisiane qui existent aussi en Haïti, soit dans la langue créole, soit dans le français parlé par les Haïtiens. Je pense à une expression s'évanouir en Louisiane, on va dire tomber en faiblesse. Je sais que les Haïtiens disent ça aussi en créole, et c'est vraiment pas le seul exemple. Et ça vient d'un fond commun, des parlers de Normandie, de l'ouest de la France, aussi le vocabulaire maritime, très présent en acadien, comme il est très présent en Haïti et aux Antilles.
Claude Bruce, vous parliez il y a quelques minutes de musique, la musique acadienne comme lieu d'expression de cette culture et de ce parler. Témoignage du musicien Jourdan Thibaudeau et de sa fille.
La musique a aidé avec un tas de les jeunes qui parlent français. Il a appris un tas de la musique. Et aussi, c'est juste une grande chose que tu ne peux pas refuser. C'est dread-là. Et c'est dans ton cœur. Moi, j'ai fait mon idée que je vais chanter en français parce que il y a assez de monde qui chante en anglais. C'est assez. Les vieilles chansons que j'aime, c'est tout en français. Et ça sent mieux.
Mon papa toujours dit qu'on est la dernière personne qui parle anglais dans la Louisiane. Ah, mais qui parle français dans la Louisiane. C'est une vraiment importante langue pour nous.
Une histoire de transmission en musique. Clint Bruce, à l'université, est-ce que les études acadiennes sont très présentes ou vous êtes très peu de chercheurs, peut-être uniques?
On est un réseau très robuste de chercheurs, pas forcément très nombreux, mais certainement très robuste et actif, et en dialogue avec d'autres chercheurs dans le domaine des études francophones ici au Canada. Et il y a des spécialistes d'études acadiennes, des acadianistes ailleurs, hein, certainement en France, je pense notamment à l'université de Poitiers, aussi en Allemagne, je connais des acadianistes en Allemagne, et bien sûr aux États-Unis. Donc un réseau pas forcément très, très nombreux, si on fait le répertoire, le bottin des chercheurs, mais actifs et répandus.
Et vous faites des ponts avec d'autres continents, avec l'Afrique, par exemple, et entre les disciplines, c'est-à-dire aussi bien la littérature, le parler, le folklore, la poésie?
Tout à fait. Un de mes buts ici avec la chaire de recherche, c'est de faire plus de liens avec les universités en Afrique. On a plusieurs collègues dans notre petite université qui sont originaires soit du Cameroun, soit du Mali. Et on a des étudiants internationaux de plusieurs pays d'Afrique et du Maghreb aussi qui viennent ici et qui découvrent la langue acadienne, hein, la langue acadienne de la Nouvelle-Écosse. Et comme vous avez un peu fait pressentir au début, c'est toute une découverte. Et il faut vraiment que ces étudiants-là, qui peuvent débarquer de Dakar, de Côte d'Ivoire, qu'ils fassent l'oreille très vite pour pouvoir fonctionner sur le campus. Et ils y arrivent.
C'est une découverte et c'est quand même assez vivifiant de savoir qu'une autre langue, un autre français est parlé et encore vivace, en résistance, mais pas seulement.
En résistance, mais pas seulement. Alors, j'ai été très frappé tout à l'heure dans ce témoignage de la fille du musicien Jourdan Thibaudeau parce qu'elle a évoqué le fait d'être la dernière génération. Alors, je vais vous dire un secret. Depuis 3 ou 4 générations, chaque génération en Louisiane pense qu'elle est la dernière génération. Il y a même un autre groupe de musique, Sweet Crude, qui a une chanson où ils évoquent le fait d'être toujours la dernière génération. Et pourtant, la fin de ces générations n'arrive jamais. Le contexte change, la situation sociolinguistique. Et ça, c'est, je crois, un élément commun entre notre milieu ici en Nouvelle-Écosse et la Louisiane. Il y a une fragilité, mais il y a aussi une résilience. Et la fragilité et la résilience marchent main dans la main. Et c'est inspirant d'un côté, et parce qu'on ne veut pas que le monde s'appauvrisse, c'est aussi inquiétant. C'est un fardeau à porter en même temps.
De l'évolution du français et de ses mystères, Clint Bruce, toutes les semaines, Lucie Bouteloup vient dans l'émission pour faire la lumière sur quelques expressions françaises. C'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Vous en touchez?
Et oui, j'avoue, et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'en touche. touche souvent. Mais de quoi s'agit-il ? Du bois, bien sûr, Pascal, toucher du bois. Donc, voilà l'expression sur laquelle je reviens aujourd'hui avec la romancière et dramaturge Nathalie Gendreau. Mais avant que cette ancienne collaboratrice d'Alain Rey ne nous livre les secrets de cette expression, on écoute les propositions de deux délicieuses ados.
Toucher du bois, c'est quelque chose que tu peux faire facilement parce que en fait, toucher du bois, t'as juste à aller en forêt et en toucher. Pour moi, c'est pour se porter chance. Donc, par exemple, quand on dit je touche du bois, c'est un peu une croyance, je me protège. Comme le bois, c'est une matière qu'on utilisait beaucoup et qui servait à faire beaucoup de choses, peut-être que donc ça portait chance d'utiliser le bois.
Peut-être que dans le futur, vu que déjà on détruit beaucoup d'arbres en ce moment et que maintenant nos matériaux sont surtout en plastique ou des trucs comme ça, et peut-être que ça veut dire que c'est quelque chose de ultra rare et que t'es très privilégié. Donc, on dit toucher du bois, on a la chance.
Peut-être parce que avant, la vie elle était plus dure et beaucoup de choses étaient construites en bois. Peut-être que quand on avait du mal, les outils étaient en bois et du coup on se raccrochait à ce qui était construit en bois pour réussir à te sortir de la misère, quoi.
La puce à l'oreille.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, toucher du bois ?
Alors, c'est une expression qui ne ressemble pas aux autres, puisqu'elle n'est pas du tout métaphorique. Simplement, elle désigne le geste de toucher du bois pour se porter chance.
Ça veut dire donc se porter chance, se protéger, c'est un petit peu comme pour chasser le mauvais œil, en fait.
Exactement, conjurer le mauvais sort.
Conjurer le mauvais sort. Alors, d'où ça vient donc cette expression toucher du bois ?
Alors, c'est une expression qui donne du fil à retordre aux linguistes, parce qu'en fait, on ne sait pas. Pour être honnête, il existe de nombreuses théories. En fait, ce qui est intéressant de retenir, c'est que le bois est ancestralement une matière retenue comme magique. Parce que
comme
les grands arbres, oui, comme sacrés, et même ayant une certaine forme de pouvoir, parce que les grands arbres, comme les chênes, sont ceux qui reçoivent le plus la foudre, puisqu'ils sont au-dessus de tout le reste. Et en même temps, ce sont ceux qui ont les plus grandes racines, qui vont loin dans le sol. Donc quand on touche un grand arbre, on touche à la fois quelque chose qui est en relation avec les forces terrestres et les forces célestes.
Donc quelque chose qui est plein d'énergie.
Exactement. Et c'est pour ça, en fait, probablement qu'on la retrouve, cette croyance, dans toutes les cosmologies anciennes, les Celtes, les Grecs, les Égyptiens, les Perses. Donc en fait, on ne sait pas du tout si ça vient. Ça peut venir de la croix du Christ, ça peut venir des chênes celtes. On ne sait pas, en fait. Il y a une théorie qui dit que ça viendrait des Grecs, puisqu'on retrouve la croyance dans le chêne sacré dès l'âge du bronze, dès moins 1500 dans le nord-est de la Grèce, avec le sanctuaire de Dodone, le premier oracle grec, où une prêtresse se plaçait sous un chêne et écoutait le vent dans les feuilles du chêne pour comprendre la pensée de Zeus.
Alors, toucher du bois, une croyance qui remonte donc à l'Antiquité, comme vous le disiez, Nathalie Gendreau. Mais alors, l'expression en elle-même, elle est utilisée depuis quand ?
Alors, l'expression est plutôt récente dans notre usage, puisqu'on l'emploie depuis le début du XXe siècle.
Et alors, quand on ne touche pas de bois, eh bien, on peut toujours se toucher la tête. D'ailleurs, on dit parfois de certains qu'ils ont une tête en bois pour dire qu'ils sont têtus.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme croiser les doigts, conjurer le mauvais sort ?
Prier pour.
Dans le nord de la France, on parle de toucher de la peau de singe.
Ah, intéressant.
Et dans le reste du monde, figurez-vous qu'on touche du bois un peu partout, où on en frappe, ce qui revient à peu près au même. C'est le cas en Allemagne, mais aussi en Bulgarie. Quant aux Polonais, eux, ils précisent que le bois doit être non peint. Bref, à chacun sa méthode, Nathalie Gendreau. Merci d'être venue nous rendre visite dans la puce. Je rappelle aux auditeurs que vous avez fait paraître avec Stéphane Marie 150 drôles d'expressions pour cultiver son jardin et que c'est paru aux éditions Le Robert. Merci et à très bientôt pour une nouvelle expression.
Merci Lucie.
Merci à vous Clint Bruce, toucher du bois. Est-ce que ça résonne en français acadien ou pas du tout du tout ?
L'expression résonne chez les locuteurs que je connais. Alors, il faudrait peut-être interroger leurs arrière-grands-parents pour savoir si dans les générations anciennes, cela se disait. Mais aujourd'hui, de nos jours, oui, tout à fait.
Merci, Clint Bruce. Les Acadiens Louisianais et leur parler de J.K. Ditchy est édité chez Lux. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve demain.
Bordeaux.